discuterons de tout cela tout à l'heure, et je donne la parole donc maintenant, c'est que je ne me trompe pas, je m'applique à monsieur Rensford. Oui, donc sur la disparition de l'organisation rythmique du vers en français médiéval. Voilà, nous vous écoutons, monsieur.
Merci. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc je vais continuer un peu dans la direction de l'intervention de M. Bagnard ce matin. Si lui, il a parlé du rythme dans le vers proto-français, moi je vais essayer de parler du usage du rythme, de l'accent, dans les vers au début du français. Je m'excuse aussi si, au contraire, j'ai préparé cette présentation, je n'étais pas tout à fait sûr du profil de mon public. Donc, si je vous disais j'ai des évidences, veuillez m'excuser. Bon, le rythme, je pense qu'on... Je ne vois pas dire beaucoup à propos des définitions générales du rythme. Juste pour me positionner... J'entends dans cette communication, quand je parle du rythme, du vers, c'est l'alternance des syllabes fortes et des syllabes faibles. Et dans la versification, en général, ça peut être une alternance des syllabes longues ou des syllabes brèves, comme dans le latin classique, évidemment, ou une alternance des syllabes accentuées et des syllabes inaccentuées, comme dans la versification de l'anglais, de la Renaissance, ou dans beaucoup d'autres traditions de versification. Et c'est sur cette deuxième dimension, que je vais considérer le français médiéval. Donc, un bref plan de cette communication. Je vais étudier le rythme du vers narratif composé en langue d'Oïle, de l'an 1000 jusqu'à 1500, à travers la position de l'accent tonique au sein du vers. Et on va voir au cours du Moyen-Âge que l'organisation rythmique, au sens de la position de l'accent tonique, va se perdre progressivement. Et je vais proposer deux facteurs qui auraient contribué à cette perte d'organisation rythmique. Donc, la première partie, c'est cette étude sur l'évolution du rythme dans le vers médiéval. Je pense que je n'ai pas trop besoin de rappeler les principes de base, la versification du français. Bon, il se base sur l'isosyllabisme, chaque vers comporte un nombre fixe des syllabes. La dernière syllabe pleine du vers porte un accent fixe. Et les vers longues de 10 ou 12 syllabes entend plus une coupe césurale au milieu du vers. Bon, je dis au milieu, je sais, donc pour les vers de 10 syllabes, c'est normalement 4 plus 6. Ils portent aussi un accent. Et ce sont en général, pour le maître, on dit que c'est plus ou moins la même chose dans la période médiévale et dans la période classique et dans la période moderne, avec des petites différences. Donc, je vous donne l'extrait de l'alexandrin classique. Est-ce que j'ai... Non. Bon, voilà. Il y a l'accent à la fin du vers. S'il y a à la fin du vers, s'il y a un syllabe inaccentué, ça ne compte pas pour les syllabes. Je pense que c'est une connaissance qu'on a tous. Alors, on dit rien à propos de l'organisation rythmique des accents de mots au sein de ces hémistiches, au sein du vers. Même si c'est un principe de base dans la plupart des systèmes de versification européens. Par exemple, en anglais, un vers de 10 syllabes de Shakespeare, « Somewhere common trade where subjects feet may hardly trample on a sovereign's head ». Vers iambiques, comme la tradition anglaise. Alors l'idée que le vers en français médiéval montre une organisation des accents de mots, à mon avis, ça reste controversé. De toute façon, quand j'ai fait des recherches de base, c'est pas quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les traités de versification. Donc Georges Lott, dans son histoire du vers français, et lui, il parle ici de la période médiévale. Il dit qu'à l'intérieur des hémistiches, toutes les syllabes sont primitivement égales entre elles et atones, par opposition à la césure et la rime qui sont toniques. Ça, c'est la position de base. Il y a plusieurs études récentes, à mon avis pas trop connues, qui semblent montrer que les plus anciens textes octosyllabiques, je vais surtout parler de l'octosyllabe, ont un rythme iambique. Je fais un paire d'articles moi-même là-dessus et je l'étudie un peu dans ma thèse. Donc, est-ce que c'est vrai? La première question, est-ce que c'est vrai qu'il existe une organisation accentuée dans ces premières phrases français? Donc, pour essayer de démontrer ça, nous étudions la fréquence des syllabes accentuées dans chaque position métrique du verbe octosyllabique. Et pour cette partie de l'étude que je vais vous présenter, le corpus de base comprend 16 extraits des textes narratifs en octosyllabes, composé entre l'an 1000 et 1500. À partir de 1175, ce sont des textes composés en dialecte central. J'aimerais bien avoir un corpus homogène point de vue dialectal, mais on n'a pas les textes. Donc, ce n'est pas possible. Il faut faire avec ce qu'on a. Je n'avais pas prévu de dire beaucoup à propos de la position, de comment j'ai reconstruit la position des accents toniques, mais vu la discussion de ce matin, je regrette un peu de ne pas dire davantage. C'est basé en général sur la position de l'accent étymologique. On voit bien à travers la phonologie historique du français où se trouvait la position de l'accent étymologique, sinon on ne pourrait pas expliquer où se trouvent les diphtongues dans les mots et des choses comme ça. Toujours des zones de complexité, surtout quand on a une suite des monosyllabes, surtout quand il s'agit des monosyllabes plutôt fonctionnelles, les clitiques, les déterminants. Et j'avais des stratégies pour traiter ça et pour traiter des cas qui étaient vraiment ambigus. Donc, si vous voulez savoir davantage, vous êtes libre de me poser des questions après. Mais c'est tout ce que j'avais prévu de dire. Bon, donc. Prenons nos textes, je reconstruis là où se trouvent les accents toniques dans chaque verbe de mon extrait, et je fais des courbes à partir de là. Donc là, on a, je pense, les positions métriques de l'octosyllabe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La huitième position est toujours accentuée, bien sûr, c'est l'accent... l'accent fixe. Et quand on regarde la Passion de Clermont, c'est un des deux textes octosyllabiques les plus anciens, de vers l'an 1000, on voit que dans la quatrième position du vers, surtout, il y a très fréquemment une syllabe accentuée. Mais pas toujours, on est environ à 70%. Et aussi, on peut remarquer dans la sixième position, c'est un peu difficile de calculer. La première et deuxième position, c'est un peu difficile à calculer. Et aussi, même dans les traditions iambiques, il y a souvent inversion dans les premières positions du verbe, mais au sein d'une tradition iambique. Mais ça, ce n'est pas du tout une courbe plate. Donc ça veut dire qu'il y a des positions, mais en plus de l'accent tonique. Passons à Crétin de Troyes, fin 12e. Même tendance, moins marquée. Et le roman de la rose, oui, encore une fois, là, c'est vraiment la quatrième et la sixième position qui se délimite. Ça, c'est fin 13e. 15e, la belle chanson merci d'Alain Chartier. Et là, on est un courbe plate. Ça veut dire que les syllabes, les accents toniques ne sont pas plus fréquentes dans une position ou dans une autre. Alors, bon, il y a d'autres... façon de montrer ça. Donc ici, j'ai un graphique. Je regarde pour l'instant que la deuxième position du verbe, pour mettre tous ensemble à la fin. Donc voici mes textes par date de composition. Et les triangles représentent la fréquence des syllabes accentuées dans la deuxième position du verbe. On voit... Ça veut dire que statistiquement, c'est pas tout à fait significatif, mais c'est bon. Je pense que c'est significatif. La tendance est significative de justesse, mais c'est pas très marqué dans la deuxième position du verbe. Troisième position du verbe, oui, c'est très marqué. Les plus anciens textes, on ne trouve pas très fréquemment les syllabes accentuées dans la troisième position. Quatrième position, tendance très marquée. texte utilise davantage une syllabe accentuée dans la quatrième position. Cinquième position, tendance un peu moins marquée, mais comme significative, point de vue statistique. Et la sixième position, moins marquée aussi. Donc, je vais mettre tous ensemble, ça fait une figure un peu du syllabia. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà les tendances dans chaque position. Mais dans les plus anciens textes, il y a une énorme différence entre la fréquence des syllabes accentuées dans la quatrième position, sur les carrés, et les syllabes dans la troisième position. Il y a une énorme différence au début, et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, les points deviennent de plus en plus rapprochés. Ça veut dire qu'il est difficile de dire qu'il y a un rythme moyen ou conventionnel de ces textes. Et il n'y a pas vraiment assez de textes pour dater très précisément, mais c'est la fin 13e, en gros. Après 1300, je ne trouve pas des textes avec une organisation juridique très forte. Bon, là, ça montre à peu près la même chose sur les niveaux de régression statistique. Ça montre une belle convergence de la fréquence des syllabes accentuées dans chaque position de la système de verbe. Donc, juste pour donner un exemple, à quoi ça ressemble des textes octosyllabiques avec une rythme fortement iambique. Je vous donne un exemple de Gormand Isambard. Les deux premiers vers, mais il faut souligner que ce n'est pas obligatoire. Dans les deux premiers vers, on a carrément un autre rythme. Mais puis on a une section qui est plus ou moins. Non, mais tu veux essayer de lire. L'escule est à fait des marmis, l'arbert d'Esmaël et au pi, parmi le flanc, l'espier, l'immis, la bonne enseigne à Quitain, ça c'est syllabique. De l'autre part, un fils des cires, le saint Balmeil, un fils Samir, et d'Isternout, Stets Mesti. Donc, le rythme est. Bon, j'exagère peut-être en tant que fou, mais. Le rythme est bien là et c'est assez clair là où se trouve, ce sont tous des syllabes accentuées, des mots lexicales et des mots qui sont des critiques. Donc la reconstruction, je dirais, c'est assez peu controversé dans ce cas-là. Peut-être, j'espère. Ok, ça c'est pour l'octosyllabe qui n'est pas inversé juré, donc il y a une plus grande liberté rythmique pour le poète. Il y a 8 syllabes et il n'y a qu'un accent fixe. Les vers césurés, on a un peu moins de liberté parce que bon, le décasyllabe s'est coupé quand même en 4 plus 6 et la règle tendin en 6 plus 6. Et j'ai essayé de faire à peu près la même chose, je n'ai pas trouvé des tendances rythmiques qui évoluent au sein des décasyllabes et de l'alexandrin, ce qui est un peu dommage. Mais il y a une chose qui change, que j'aimerais souligner, c'est au niveau de la pratique césurale. Donc, ce sont des vers césurés. Une particularité de la versification des premières textes narratives est les césures dites épiques. Ça veut dire que, bon, dans les vers de 10 syllabes, la quatrième syllabe est toujours tonique. Et si on a un mot paroxyton, à la fin de l'hémistiche, avec une syllabe atone, cette syllabe est là et elle ne compte pas comme à la fin du vers. Donc on a une syllabe en plus au sein du vers qui ne compte pas pour garder cet accent tonique à la quatrième syllabe. Bon, ce qui sait que sa tante s'enseigne mieux qu'elle fait, pas nécessaire de lire. Désolé, peut-être à la fin si j'ai le temps.
Non, mais vous pouvez accentuer, franchement. Hein?
Et c'est intéressant que cette césure épique disparaît un peu après 1300. Il y a deux raisons pour cette disparition. D'abord, ça peut paraître un peu bizarre, mais les vers alexandrins deviennent très très rares à partir de la fin 13e. Ils durent pas plus qu'un siècle vraiment, et puis ils sont rétablis dans la période classique. Quand ils sont rétablis dans la période classique, bien entendu, ils n'utilisent pas du tout la césure épique. Et dans les vers décasyllabiques, à partir de la mi-14e, on voit dans les textes narratifs une adoption de la césure dite lyrique pour les mots féminins. Donc ici, c'est avec ça les diomes de Machou. La césure lyrique consiste en mettant une coupe toujours après la quatrième syllabe Et si le mot termine l'hémistiche et paroxytone, on déplace l'accent vers la troisième syllabe. Donc le rythme n'est plus. La position de l'accent n'est plus fixe. Donc, on tombe à sourd que tout rien ne s'expire, que la terre est vraiment de couleur gaie, ce qu'on tuère, donc on se souffrait. Donc, c'est la position de la coupe qui compte, c'est pas forcément la position de l'accent. Donc, ça devient un texte structuré par la coupe. Alors, donc, l'évolution que j'ai montrée, j'espère, c'est que le plus ancien texte octosyllabique, quand un rythme iambique, faible fort assez marqué, une tendance qui n'est pas présente après 1250-1300, je n'ai pas les données pour préciser davantage. Et donc, les textes syllabes, on perd cette forme de césure qui garde la régularité rythmique de chaque hémistiche. Et on introduit dans le vers narratif un césure qui déplace l'accent pour garder la position de la coupe. Là, peut-être, ça fait partie de la même évolution. Il semble donc que l'organisation rythmique, en ce qui concerne la position de l'accent tonique au sein du vers, est bien présente dans les plus anciens textes, mais disparaît au plus tard, au début du XIVe siècle. Ça, c'est ce que j'espère que je vous ai montré. Alors, la question suivante, qui est très intéressante, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai deux facteurs que j'aimerais suggérer. Il y en a probablement d'autres pour expliquer cette période. Premier facteur, en tant qu'historien de la langue française, j'aimerais bien souligner le rôle du changement linguistique. Le changement de l'accent du français dont parlait Michel Bagnard pour le latin classique jusqu'au latin tardif, mais un peu dans l'autre sens, dans le français. Donc l'émergence de l'accent du français moderne. Oui, vous le savez sans doute que l'accent tonique en français moderne n'est plus lexical. C'est un accent, les linguistes disent, un accent de groupe, un accent syntagmatique. Selon les phonéticiens du français moderne, ça veut dire que vous. L'accent ne se réalise pas sur chaque mot, mais à la fin des courtes groupes de mots. Je vous donne l'exemple du serpent nominal, un joli enfant. Je prononce très bien. Il n'y a qu'un accent primaire à la fin sur enfant. Il peut y avoir éventuellement des accents secondaires, je l'admets. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément sur la dernière syllabe de joli, c'est-à-dire la position étymologique, que vous mettez cet accent. On peut très bien dire. Un joli enfant, ou un joli enfant. Je dirais, je ne sais pas l'autre alternative, mais à mon avis, ça ne choque pas de dire les deux. Donc cet accent secondaire est un peu autre chose, et il n'est pas lié du tout à la position étymologique, à la dernière position du mot joli, au sein de syntaxe. Bien sûr, cet accent ne distingue pas des paires de lexèmes, comme italien, je ne peux pas distinguer le mot encore et le mot encore en français, ça ne veut rien dire, c'est le même mot. Et donc sa fonction, voilà, c'est un peu plus hypothétique, peut-être sa fonction au niveau psychologique, c'est un peu différent, peut-être c'est pas vraiment relié au lexique mental. Il sert peut-être d'une fonction démarcatrice, de démarquer les unités syntaxiques. C'est-à-dire que l'accent tonique de français est beaucoup plus relié à l'intonation, beaucoup moins lié au lexique. Et ça, c'est une particularité du français, parmi toutes les autres langues romanes, et de ce que je sais, de beaucoup d'autres langues du monde. C'est vraiment un trait très particulier du français. Alors, pourquoi est-ce que ça pourrait influencer la manière de versifier ? Bon, il faut bien faire l'argument, parce que les systèmes de versification, normalement, s'appuient sur les contrastes phonologiques présents dans la langue choisie. Donc, on n'a pas vraiment un maître quantitatif dans les langues romanes. Une des raisons, c'est que bon, les langues romanes, normalement, ne font pas une distinction phonologique entre syllabes longues et syllabes comme on le faisait le latin. Ici, il y avait un métricien très célèbre, Michael Gasparov. Lui, il dit, en fait, il faut préciser que pure syllabic and pure tonic versification are possible il faut essayer d'aimer les langages, ce qui va un peu à l'encontre de ce que je veux dire. Mais il rajoute, if tonic is understood as counting by the number of phonetic words. Et alors je viens de vous montrer que c'est précisément le problème du français moderne, c'est que qu'est-ce que c'est le mot phonétique lorsque l'accent n'est plus relié au mot, mais c'est relié au groupe. C'est peut-être le cas que cet accent, parce qu'il n'est pas relié au lexique, il n'a pas aussi assez de science pour servir de principe de structuration du verbe du français. Et si ce changement accentuel s'est passé au début de la période médiévale, autour du 12e, 13e siècle, il se peut que ce changement qu'on voit au niveau de la versification, c'est un bon indice de ce changement linguistique que les gens, que l'usage de... C'est peut-être que cette évolution aurait mené à la perte de l'usage de la culture dans la versification. Bon, ça, c'est ma première facteur dans mon domaine de compétences linguistes. En sortant un peu de mon domaine de compétences, il y a peut-être un rôle de l'évolution littéraire. Je vais présenter ce que je sais, et si vous en savez davantage, j'accueillerai très volontiers vos commentaires. Bon, dans le corpus, au début, j'ai dit que j'étudiais les textes narratifs, ça c'est un peu hétérogène comme catégorie des textes médiévaux quand même. J'ai mis des vies de saints, il y a 800 chants en digeste, octosyllabique, il y a des romans. Et ça change au cours du temps le type de texte qu'on a. Donc, est-ce que l'usage du rythme dans un texte pourrait être relié à son genre? Donc, j'élargis un peu mon corpus. Je prends 33 extraits des textes octosyllabiques. Je raccourcis la période clé de l'an 1000 jusqu'à 1300 seulement. Et j'ajoute des textes lyriques, des chants entre-ouverts, que je n'ai pas mis dans un premier temps, et des textes dramatiques. Il n'y en a pas beaucoup dans le XIIIe siècle, mais je les rajoute. Bon, cette fois, je représente l'organisation rythmique d'un texte par une statistique de rythmicité. Bon, c'est juste un moyen de représenter plus facilement combien un texte est rythmique. Plus elle est large, plus la position d'accent tonique au sein du vers est régulière. En gros. C'est juste pour mettre tout dans un seul graphique, qui est facile à lire. Bon, si je classe mes 33 extraits en ordre décroissant de rythmicité, je vais vous donner une idée, les 5 textes qui arrivent en tête dans ce corpus, c'est la seule chanson de geste octosyllabique. Murmans et Zambard, début 12e. Les textes anciens, la passion de Clermont en deuxième, la vie de Saint-Léger au cinquième rang, très anciens textes, des textes religieux, et donc voilà. Et les deux autres textes, au troisième et quatrième, sont aussi des textes religieux. Donc, première texte dramatique, le jeu d'Adam, le douzième. Il faut souligner aussi qu'il y a quand même un texte du treizième, ce qui veut dire que la diachronie n'est pas toujours la règle. Qui peut expliquer cette évolution. Alors, je vous montre la graphique. Bon, voilà, non, ça c'est pas nécessaire de dire ça, c'est juste un découpage de corpus. Alors, ça c'est ma tentative de diviser par genre. En bleu, nous avons les romans en ordre chronologique. En rouge, les récits religieux, c'est-à-dire des vies de saints et des récits de la passion. J'ai aussi le miracle de Petit de Quincy et un conte pieux. Les Fabio, j'en ai pas beaucoup, donc c'est peut-être pas la peine d'en parler, pour les textes dramatiques aussi. Et à la fin, ce sont des chants entre-ouverts, donc tout syllabes. Et ce que nous voyons dans cette graphique, c'est qu'il semble que les récits religieux font une usage plus large du rythme. Faut souligner aussi que dans ces textes religieux, ce sont des premiers textes dans le vernaculaire. En octosyllabes et très écrit, donc ce sont aussi les textes les plus anciens. Donc c'était très difficile de découpler les deux facteurs. Et ce qui est intéressant, c'est dans le corpus des romans, ce sont les plus anciens romans qui font l'usage le plus large de l'organisation rythmique en octosyllabes. Et surtout après Catherine de Troyes, je fais la charrette, l'organisation rythmique joue un rôle tout moins important dans le genre roman. Donc, ça c'est ce que je viens de dire. Donc, pour terminer, je vais faire une suggestion assez tentative, c'est que on a vu une association du rythme avec les premiers textes littéraires, donc il y a un aspect diachronique. On a vu aussi une association du rythme avec le récit religieux, ici là, et la chanson de gestes. On n'a qu'une seule en octosyllabe, malheureusement. Donc, est-ce que ce qui se passe ici, c'est le rythme est associé aux genres qui sont les plus liés à une tradition orale? Donc, ça veut dire qu'on sait, par exemple, que les premières, la première passion de l'an 1000, la vie de Saint Alexis, c'était des textes cantilanés, ils étaient très reliés à la performance orale. Donc, les chansons de geste aussi, ils étaient cantilanés, ils étaient très reliés à une performance orale. Alors, je ne dis pas qu'on... trop simplistiquement quand on passe des textes oraux aux textes écrits, c'était beaucoup trop simpliste de dire ça. Mais je cite Paul Zumpour qui voit, autour de 1150, l'émergence du roman, il voit une rupture avec la tradition orale. Premièrement, c'est un texte qui n'est plus strophique, c'est un texte continu, même si c'est toujours octosyllabique. On sait que ces textes étaient récités par des jongleurs. C'est pas qu'ils n'étaient pas oralisés. Mais ce que disons autour, c'est que la lisibilité, peut-être c'est bien un valeur fondamentale, certes, même composée par l'écrit, le texte reste longtemps destiné à la déclamation ou à la lecture orale. Une transformation néanmoins s'est produite dans le mode d'audition. Est-ce que le contexte de la performance du roman était un peu différent que le contexte de performance des premiers textes français? Ils étaient plus chantés. Ça, c'est une hypothèse, une suggestion que je vous offre. Et pour terminer, je résume juste ce que je viens de dire. Il est clair que le rôle mythique de l'accent tonique dans la structuration du verbe diminue au cours du Moyen Âge. Il y a un facteur qui pourrait expliquer ça, c'est l'évolution linguistique, mais aussi peut-être l'évolution des genres littéraires, que le rythme était beaucoup plus relié à certains genres de textes et à l'ancienne tradition orale. C'est là où je termine. Merci.